Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Vous l'avez vu, comme nous, les bateaux de migrants sont à nouveau là, en Méditerranée, les passages par Ceuta aussi, la reprise des traversées, ce sont les beaux jours bien sûr, mais pas seulement, le Covid, la pauvreté qui va avec, tout cela accélère évidemment les départs vers l'Europe, qui se dote, ou va se doter, d'une agence européenne de l'asile, dont on verra dans un instant si elle ressemble à une coquille vide ou si elle peut enfin faire avancer la politique migratoire en Europe. Le bruit du monde ce soir est en Irak pour illustrer une réalité. Avec le Covid, encore une fois, jamais le travail des enfants n'a été aussi fort dans le monde. En Irak, ça fait même des décennies que ce phénomène augmente. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Mariam El-Kurdi a trouvé notamment un prêtre catholique dans les geôles indiennes et des barils de pétrole qui trouvent une seconde vie. C'est au Sénégal. 18h50, l'Amérique d'après, celle de Joe Biden et Loïc Lurie. Vous verrez combien nos obstacles à la vaccination sont aussi ceux des Américains. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et la cacophonie qui recommence en Europe, mais là précisément avec le variant Delta. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir François Gémen.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Université de Liège, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste des flux migratoires. Votre dernier ouvrage paru chez Fayard en 2020, l'année dernière, s'appelait « On a tous un ami noir pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations ». Je le disais, François Gémen, au début de ce mois, on a suivi le sauvetage très long par l'Ocean Viking, heureusement, de 369 migrants qui venaient d'Égypte, du Bangladesh, d'Érythrée aussi. On a vu ce matin que 112 ou 119 migrants à nouveau ont passé l'enclave de Ceuta. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes là face à un retour post-Covid auquel il faudra bien faire face et dont il faudra bien parler?
Absolument. Les flux migratoires, à la fois en Méditerranée, mais aussi dans l'Atlantique, aux abords des îles Canaries, ont repris, je dirais, leur rythme d'avant Covid. Et donc, il est certain qu'il y a eu une baisse subite pendant le confinement des traversées. Mais là, elles ont repris et malheureusement la mortalité a aussi repris. Il y a déjà près de 900 personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée depuis le début de cette année.
Vous le disiez, les passages illégaux effectivement en 2020 ont été les plus bas de ces 5 dernières années, ce qui semble effectivement logique à cause du Covid. Est-ce que ça veut dire, cela dit, que les arrivées vers les côtes ont été moins importantes, ou est-ce qu'on peut dire même qu'il y a embouteillage dans les côtes désormais, ce qui veut dire qu'on verra des bateaux en cascade dans les semaines qui viennent?
C'est malheureusement à craindre, c'est-à-dire que si on combine à la fois la levée de certaines restrictions, notamment sur les frontières, avec le beau temps et la météo plus favorable au passage, effectivement, on peut s'attendre en quelque sorte à une forme d'embouteillage. Et les ONG présentes en Méditerranée le disent déjà, qu'elles repèrent de plus en plus de bateaux. Et malheureusement, un grand nombre de bateaux sont aussi interceptés et ramenés en Libye, qui est aujourd'hui un enfer sur Terre pour les migrants. Déjà plus de 16 000 migrants ont été ramenés en Libye, où ils croupissent dans des geôles, dans des prisons, depuis le début de l'année.
Et on va y revenir bien sûr là-dessus. Est-ce que vous diriez que dans cette année et demie, les demandeurs ont changé? On sait où certains afflux, on sait que la Tunisie par exemple a vu un afflux considérable, on sait dans quel état de Covid ils sont, ce qui est catastrophique. Ça veut dire que la situation économique l'est tout autant, donc ils sont très nombreux. Mais on voit par exemple que dans ce bateau, il y avait des Érythréens, il y avait des gens du Bangladesh. Est-ce que le type de population a bougé?
Je dirais qu'il y a deux évolutions majeures. La première, c'est que les flux sont de plus en plus mixtes. C'est-à-dire qu'on va trouver sur un même bateau des gens qui viennent d'origines très différentes, avec des buts très différents et des parcours de vie parfois très très différents. La deuxième évolution, c'est qu'on va avoir aussi toute une série de personnes qui n'ont plus de perspective à cause du Covid, notamment des gens qui dépendaient un peu du tourisme, qui n'ont plus de perspective économique, et donc on voit des jeunes Tunisiens, des jeunes Marocains qui prennent à leur tour la route de l'Europe parce qu'ils n'ont plus de perspective dans leur pays.
Alors je le disais, le Conseil et des représentants du Parlement européen sont parvenus à un accord qui reste pour l'instant un accord provisoire, mais ça reste une vraie base de travail pour ce qu'ils appellent désormais une agence européenne de l'asile. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait réellement pour les gens qui viennent d'arriver? Est-ce qu'on est en train enfin d'accorder au moins les politiques de l'asile?
C'est aller un peu vite en besogne. C'est-à-dire que pour le moment, la politique européenne de l'asile et des migrations était un tel désert total, puisque la politique consistait simplement à fermer les frontières et à laisser mourir les gens en Méditerranée, qu'on en est à se réjouir de la moindre avancée. Cette agence de l'asile, elle était dans les cartons depuis 2016, et donc 5 ans après, on arrive à un premier protocole d'accord entre le Parlement et le Conseil européen. Pour le moment, c'est essentiellement une agence qui va fournir du soutien aux États membres qui sont en première ligne, c'est-à-dire essentiellement les pays méditerranéens. La grande question, c'est de savoir s'il va y avoir un vrai contenu politique derrière la question du soutien logistique. Et ça, c'est évidemment la grande question. Est-ce que les pays européens vont parvenir à se mettre d'accord pour harmoniser leur politique d'asile, pour harmoniser les critères d'obtention du statut de réfugié, les conditions d'accueil et de réception, l'accès au marché du travail? Ça, c'est la grande question, parce que les demandeurs d'asile, en réalité, ils ne cherchent pas à venir dans un pays européen particulier. Ce sont les passeurs qui décident pour eux où ils arrivent, et ils cherchent avant tout à venir en Europe.
Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, dans ce pacte migratoire, comme on sait de toute façon qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord les uns les autres, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, on le prend par morceaux, on le prend par petits bouts, et ça c'est un petit bout.
Petit bout, en espérant construire des petits bouts d'accord peu à peu. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? Soit on a essayé de mettre la question sous le tapis et de laisser mourir les gens, soit de confier à d'autres le soin de gérer à notre place cette politique d'asile et d'immigration, y compris des régimes très peu recommandables, la Turquie, la Libye, et on a vu malheureusement que certains pouvaient utiliser cela comme une sorte d'arme de levier diplomatique quand le Maroc a ouvert la frontière de Ceuta. Et donc là, l'enjeu pour l'Europe, qui n'est pas juste un enjeu en termes de valeurs et d'humanisme, mais qui est aussi un vrai enjeu de sécurité, c'est de parvenir à déployer une politique commune. Pour le moment, la Commission a mis sur la table un nouveau pacte pour l'asile et les migrations, qui en réalité ne fait que reproduire des vieilles recettes et qui, à mon avis, n'a aucune chance de fonctionner. Il y a en plus cette idée d'une agence européenne commune. Comme vous le disiez, on construit petite brique par petite brique, et je pense malheureusement qu'il va falloir y aller avec une coalition d'États volontaires. Je ne pense pas qu'on parviendra à mettre tous les gouvernements d'accord. Il faut que les gouvernements qui sont d'accord d'aller de l'avant puissent le faire, quitte à avoir une politique à deux vitesses.
Qu'est-ce que ça change, et j'ai presque j'ai un peu le sentiment de connaître la réponse, qu'est-ce que ça change pour, vous l'avez un petit peu évoqué, ce qu'on appelle la stratégie du pushback désormais, c'est-à-dire on les prend à l'arrivée, on les ramène où ils sont. Je vous pose la question parce qu'on a tous vu passer sur les réseaux sociaux récemment cette image épouvantable d'hommes nus que la Grèce était en train de ramener à leur point de départ. Qu'est-ce que ça change là-dessus? Est-ce que l'Europe, qui sait, ferme intégralement les yeux, parce que effectivement c'est trop compliqué de se mettre d'accord pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Alors, ces pushbacks sont une violation très claire du droit international. On a vu ces hommes nus renvoyés en Turquie. Il y a aussi ces bateaux que la Grèce renvoie en Méditerranée avec des enfants en pleine nuit. Et donc, il faut absolument, je dirais, qu'on respecte en premier lieu le droit international. Et pour le moment, personne n'ose dire quoi que ce soit à la Grèce ou même à la Hongrie, de peur de faire capoter, je dirais, un accord global. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de l'accord de tous les pays. Quelque part, si les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est veulent bloquer, qu'ils bloquent. Après tout, le nombre de demandeurs d'asile et migrants qu'ils accueillent chaque année est tellement faible que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le Danemark bloquera aussi. On sait que le Danemark veut complètement externaliser sa politique d'asile avec des pays d'Afrique. Eh bien, je pense qu'il faut malheureusement en tirer le constat et pouvoir avancer avec ceux qui sont d'accord d'avancer pour faire respecter en premier lieu le droit international. Et je me réjouis de voir que le Parlement européen s'est quand même un peu réveillé par rapport à cette question des pushbacks, et que, alors que le Parlement a laissé faire pendant très très longtemps, là on sent que certains députés commencent à se saisir de la question.
Mais vous parlez de droit international. Alors effectivement, la position hongroise, on la connaît, la position de certains autres aussi. Les Danois, par exemple, dans ce qu'ils essayent de faire, en effet, donc d'externaliser, ce qui, de vous et moi, n'est pas intégralement différent de ce que nous faisons avec la Turquie, de ce que nous pourrions faire avec le Maroc.
Mais, ni de ce que l'Angleterre fait avec la France.
Et de ce que l'Angleterre fait, effectivement, avec la France à Calais, peut-être. Est-ce qu'ils ont le droit, en termes légal, en termes de droit, tout simplement, les Danois, d'externaliser intégralement leur politique migratoire?
C'est clair. C'est une violation à la fois de la Convention de Genève de 1951 qui régit le droit d'asile. C'est aussi une violation des règles européennes. Le problème, c'est que ces règles de droit humanitaire sont violées chaque jour, quotidiennement, y compris par la Commission européenne elle-même. C'est-à-dire que quand nous finançons les gardes-côtes libyens pour qu'ils ramènent les migrants qui tentent de passer en Libye et les enferment dans des prisons, et que nous fermons les yeux sur les mauvais traitements, nous violons aussi chaque jour ce droit humanitaire. C'est devenu une sorte d'illusion et de fantasme. Et effectivement, dès lors où on a cette sorte de fantasme du droit humanitaire, qui serions-nous pour aller donner des leçons à qui que ce soit? Personne n'a de leçons à donner à quiconque ici.
Est-ce qu'on est, François Gémen, à la merci ou à la veille d'une nouvelle crise qui serait comparable à celle que nous avons vécue en 2015 ou 2016? Est-ce que nous sommes plus aptes ou tout aussi peu aptes à la gérer? Je vous pose la question parce que la présidence portugaise précédemment, les lignes n'ont pas bougé pendant la présidence portugaise. On est en présidence slovène. La Slovénie a une relation, une politique qui est plus proche de celle d'Orban aujourd'hui.
Très clairement.
Donc dans ces 6 mois à venir, est-ce qu'il y a un risque d'une nouvelle crise migratoire? Et est-ce que cette présidence slovène vous inquiète?
Oui, d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'effectivement la présidence slovène n'a pas du tout l'intention de rouvrir le dossier. Et malheureusement, on est aujourd'hui dans une situation très comparable à celle de 2015-2016, c'est-à-dire que rien n'a bougé et qu'on est toujours aussi démuni en termes d'instruments et en termes de mécanismes pour gérer cet afflux de demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Et donc, même si les chiffres sont revenus maintenant à des niveaux qu'ils avaient il y a 10 ans, on est toujours incapable de déployer une vraie politique d'accueil. Et ça veut dire, malheureusement, que cette crise peut ressurgir à tout moment. Mais il faut bien comprendre que cette crise, elle n'est pas créée par les flux migratoires eux-mêmes qui sont devenus structurels. C'est une crise que nous créons nous-mêmes par notre incapacité à déployer une vraie politique commune. Et le problème, c'est que on est aujourd'hui dans un cercle vicieux où le narratif et l'imaginaire de crise qui restent très présents dans les opinions publiques vont pousser à une fermeture des frontières toujours plus grande. Et on sait malheureusement que cette fermeture des frontières va créer des drames humanitaires en Méditerranée, va créer des camps aux frontières de l'Europe, aux conditions assez lamentables, et que donc on est dans un cercle vicieux où la crise va entraîner la fermeture des frontières qui elle-même va entraîner de nouvelles crises.
Et on a bien vu pendant la pandémie la fragilité de Schengen au fond, parce que nos frontières, nous avons su les fermer. Qu'est-ce qui nous empêche de les refermer à nouveau sur la problématique des migrants?
Bien sûr, et on est aujourd'hui dans une situation où une partie significative de l'opinion publique souhaite que ces frontières restent fermées indéfiniment, y compris après la crise du coronavirus. Et donc, dès que nous nous trouvons en situation de crise, nous avons tendance à nous croire plus rassurés par des frontières fermées. C'est vrai en termes de crise sanitaire, en cas de crise économique et évidemment, a fortiori, en cas de crise migratoire. Et c'est pour ça, évidemment, que beaucoup ont intérêt à maintenir dans le débat public cet imaginaire et cette rhétorique de crise migratoire.
On laisse tomber, donc, vous dites, vous, l'idée qui était une belle idée, mais qui a échoué, effectivement, jusque-là, l'idée de l'équilibre, solidarité, responsabilité entre chacun des pays. On laisse tomber intégralement, on fait appel aux volontaires.
Je pense qu'il faut être pragmatique aujourd'hui et pouvoir avancer. Bien sûr, ça aurait été une très belle idée que tous les États membres puissent être solidaires et développer une vraie politique d'accueil européenne. Nous faisons le constat depuis 5 ans que ce n'est pas possible et que beaucoup de pays aujourd'hui souhaitent se débarrasser de l'asile complètement, souhaitent une Europe sans réfugiés, sans demandeurs d'asile. Si certains veulent préserver ces valeurs, il faut qu'ils puissent se mettre ensemble et avancer.
J'ai envie de vous poser la question qui suit celle-ci, mais y a-t-il des volontaires?
Alors, la grande question, c'est qu'on va se compter, soyons clairs.
C'est ça.
Qui seront les volontaires? Sans doute l'Espagne, sans doute le Portugal, le Luxembourg, l'Italie. Peut-être la France, c'est un grand point d'interrogation et ce sera une des grandes questions de la présidence française de l'Union européenne qui s'ouvre le 1er janvier prochain. Il y a en tout cas des pays qui n'en seront pas. Très clairement, le Danemark n'en sera pas. Très clairement, les pays du bloc de l'Est n'en seront pas. Très clairement, l'Autriche n'en sera pas. La Belgique n'en sera sans doute pas non plus. Et donc, effectivement, ça risque aussi de créer une sorte d'Europe à deux vitesses sur une question qui est fondamentale. On ne discute pas ici de règles budgétaires ou d'ajustements de budget. On discute vraiment d'une question de valeurs fondamentales qui sont au centre, au cœur du projet européen.
Dans le fameux plan de relance, il y a un certain nombre de conditions qui ont été mises. On sait bien ce qu'on est en train de discuter avec la Hongrie sur les problèmes de droits humains LGBT. Auriez-vous souhaité, est-il souhaitable, que la question des migrants soit mise aussi dans les conditions, parfois, au moment des plans de relance?
C'est-à-dire que on se scandalise, et à raison, des nouvelles lois en Hongrie sur les questions LGBT, mais c'est comme si les violations des droits concernant les migrants ne heurtaient personne. Le Danemark fait des choses inimaginables en voulant délocaliser complètement sa politique d'asile. Ça fait à peine froncer quelques sourcils. Il y a une sorte de logique de deux poids, deux mesures qu'il faut dénoncer là-bas aussi.
Si jamais, et ce sera la dernière question, François Gémen, si jamais cette fameuse agence voit le jour, cette première avancée quand même, qu'est-ce que ça change malgré tout pour quelqu'un qui arrive sur le sol européen?
Pour le moment, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire qu'on va engager 500 personnes qui fourniront un appui logistique pour traiter les dossiers.
Voilà. Donc ça veut dire que s'il y a un afflux, on est capable aussi d'envoyer 500 fonctionnaires en gros qui peuvent travailler avec ces gens.
Mais bien sûr, c'est simplement que ces 500 fonctionnaires qui dépendront directement de l'agence européenne. Pour le moment, c'est juste une agence logistique. La grande question, c'est est-ce qu'elle pourra devenir demain une agence qui soit également politique? Pour le moment, il n'y a aucun accord sur ce sujet.
Eh ben écoutez, j'allais dire à suivre.
On progresse très lentement. Voilà. C'est une première avancée depuis 5 ans. J'espère qu'il ne faudra pas attendre 5 nouvelles années pour avoir un accord politique.
François Gémen, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po aussi et spécialiste des flux migratoires. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite, ce soir, ça se passe en Irak, où le travail des enfants a pris de tristes proportions. Un constat dans le monde entier, c'est surtout le Covid et la pauvreté, forcément, que cela engendre, qui a provoqué une hausse spectaculaire des chiffres, et vous le verrez avec nous. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Mariam El-Kurdi.
Nous irons en Inde, où la mort d'un prêtre catholique suscite beaucoup d'émotions. Le père Stan Swamy est mort dans une prison de Bombay, il avait 84 ans.
Le monde d'après Trump, celui de Joe Biden et Loïc Leury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne, on parlera de cette Amérique qui ne se vaccine pas et de Donald Trump toujours roi chez les conservateurs.
Merci, à tout de suite. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous, puisque vous parliez à l'instant de cacophonie européenne, on y a droit aussi sur voilà. Le variant Delta, chasser le naturel, il revient au galop.
Et à tout de suite, merci beaucoup Jean-Marc. Restez avec nous, évidemment, le tour de la planète fait escale à Minneapolis, Prince Born to Die, c'est l'album posthume et c'est dans la playlist d'Inter.
She sells everything from A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto. You might be next if you try to cut mama's cake.
What the deal, Daddy?
Ask her what the deal is. This is what she said. She really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Ask her what the deal is. This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you, get you. She gets you so high, so high. It said nothing good happens after me.
Le bruit du monde, ce soir est en Irak, à Bagdad, avec d'abord un chiffre glaçant. Pour la première fois en 20 ans, le travail des enfants a progressé dans le monde. 160 millions d'enfants ont dû travailler, 8 millions de plus qu'en 2016. En cause notamment le Covid et l'augmentation de la pauvreté. La démonstration, elle est donc en Irak, où le nombre d'enfants au travail n'a cessé d'augmenter en raison des conflits, des déplacements forcés, des défis économiques. Et le reste, c'est Lucille Wasserman qui raconte.
En périphérie de Bagdad, des dizaines de gamins sont à la manœuvre. Vente de mouchoirs, lavage de pare-brise, distribution d'essence, qu'ils aient 6 ou 13 ans. Ils s'activent sous un soleil de plomb. Henrik, un fonctionnaire irakien de 48 ans, passe la majorité de son temps libre ici, pour aider financièrement les parents et éviter qu'ils n'envoient leurs enfants à la rue.
Comment tu vas, mon chéri ? Quel âge tu as, toi ?
10 ans.
10 ans et tu vas pas à l'école, n'est-ce pas ? Tu fais quoi comme travail ?
Je ramasse des canettes dans la rue.
Ah, et combien tu gagnes pour ça ?
25, 50 centimes.
C'est très peu, vraiment peu.
Ce travail est répandu chez les enfants qui revendent ensuite l'acier. Sa mère, à ses côtés, explique qu'ils n'ont pas le choix.
Je sais qu'il veut retourner à l'école, mais je n'ai même pas d'argent pour lui acheter des habits, des pantalons, des livres. Tout le monde ici vit la même situation. L'autre jour, il s'est même blessé, il s'est coupé la main avec l'acier. J'ai dû l'emmener à l'hôpital pour le recoudre. Qu'est-ce que je peux faire ? On a besoin de cet argent.
Henrik ne la blâme pas, mais s'inquiète. Les petits boulots peuvent vite devenir dangereux en Irak.
Il y a les enfants qui travaillent pour ramener de l'argent à leurs parents. Mais il y a aussi ceux qui travaillent pour des mafias, des réseaux, qui incluent également des gens très importants. Ces enfants-là, ils prennent de gros risques parce qu'ils traitent avec des gangsters, des alcooliques, des drogués.
À Bagdad, c'est la petite brigade des mineurs qui est chargée d'enrayer le phénomène. À leur tête, le général Adnan Hamoud. En uniforme beige, une épaisse moustache grisonnante sous le nez, il nous reçoit dans son bureau.
On a démantelé plusieurs réseaux. Ils vivent en général dans des maisons abandonnées et exploitent les enfants là-bas. Les petits vont mendier dans la rue, puis le soir, ils retournent dans ces maisons. Parfois, ils sont transférés d'une maison à une autre.
Ces opérations restent toutefois limitées. La brigade n'est composée que de 350 hommes et manque cruellement de moyens, selon ce général.
Il y a énormément de choses à améliorer. Le travail des enfants est un problème majeur. Mais par exemple, nous n'avons pas assez de refuges pour les accueillir. On a besoin d'une politique de protection globale qui implique tous les ministères.
Et c'est peu dire, car dans tout l'Irak, un seul refuge gouvernemental permet d'accueillir ces mineurs. Sa directrice, Raïda, a accepté de nous ouvrir les portes de ce foyer. Dans les chambres, 4 à 5 lits superposés sont accolés à des murs décrépits. Des dizaines de matelas sont empilés sur l'un d'entre eux. Officiellement, seuls 65 enfants peuvent être accueillis ici.
On est surchargé. On a 93 enfants ou plus ici aujourd'hui. Où puis-je les mettre ? Je suis obligée de mettre le matelas par terre et de les faire dormir là. Je ne peux pas non plus les faire dormir avec les tout-petits en haut.
Une fois leur majorité, ces jeunes ne sont plus autorisés à rester. Raïda essaye alors de leur trouver un emploi, même si elle n'en a pas l'obligation.
Je le fais parce que je tiens à ces enfants. Où est-ce qu'ils vont ensuite ? Je les élève, je m'attache à eux, et ensuite quoi ? Je dois les jeter à la rue, alors que ce sont des proies faciles pour les gangs ?
Pour tous ces Irakiens engagés dans la lutte contre le travail infantile, c'est le pessimisme, voire le désespoir qui domine. Car ils le savent, sans plan global de protection de l'enfance, ce fléau continuera d'exister en Irak. Et pour l'heure, ce combat est loin d'être une priorité pour le gouvernement.
Lucille Wasserman pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est sous le radar et c'est Mariam El-Kurdi. Et Mariam, nous restons à Bagdad un petit instant. Nous sommes dans un supermarché.
Oui, dans un supermarché où un commerçant retire des rayons, des dizaines de boîtes de conserve et les jette dehors à la poubelle à contre-cœur. Les produits ne sont pas périmés, non. Mais à cause de la très forte chaleur, ces aliments ne seront plus consommables. Les températures dépassent les 50 degrés à l'ombre et l'Irak fait face à des coupures régulières d'électricité. La situation est pire encore dans le sud du pays. Par exemple, dans la ville côtière de Bassora, où l'humidité vient s'ajouter à la chaleur. Abdullah Ahmed, commerçant à la Sauvette, a beau s'asperger régulièrement d'eau, il souffre beaucoup. Nous sommes très fatigués et nous ne pouvons pas rester au soleil. Notre situation est très mauvaise. Nous sommes épuisés. L'autre jour, je me suis évanoui. Je suis tombé par terre, dit-il. Nous n'avons pas d'électricité. Les générateurs tombent en panne tous les jours et ils ne nous fournissent pas d'électricité, ajoute-t-il. Alors qui est responsable de tout ça, s'interrogent beaucoup d'Irakiens. Le chercheur irakien en sciences politiques, Sajad Jiyad, ironise sur Twitter. Le ministère de l'électricité dit « c'est la faute du ministère du pétrole ». Le pétrole dit « c'est la faute des finances ». Les finances disent « c'est la faute de l'Iran ». L'Iran dit « c'est la faute du gouvernement irakien ». Le gouvernement dit « c'est la faute du peuple ». Le peuple dit « c'est la faute des politiques ». Et les politiques disent « il faut faire avec », résume-t-il. Selon le gouvernement irakien, les coupures à répétition sont dues à une combinaison de facteurs. Des attaques terroristes sur certaines lignes à haute tension, des problèmes d'approvisionnement en essence des centrales électriques, alors que le pays est un important producteur de pétrole, et l'arrêt de livraison iranienne. L'Iran, à qui l'Irak doit 6 milliards de dollars d'impayés de gaz et d'électricité, a en effet décidé cet été de couper le robinet. Ce dont on est sûr, c'est le ras-le-bol des Irakiens. Ils sont descendus manifester en nombre vendredi dernier. Et sous la pression, le ministre en charge de l'électricité a présenté sa démission.
Nous partons maintenant pour l'Inde avec la mort d'un prêtre catholique qui suscite beaucoup d'émotions chez les défenseurs des droits de l'homme.
Oui, le prêtre jésuite Stan Swamy est mort à 84 ans dans une prison indienne à Bombay, où il était enfermé depuis octobre 2020, accusé par le gouvernement indien, sans aucune preuve formelle, je cite, de terrorisme maoïste avec 15 autres intellectuels et défenseurs des droits humains. Stan Swamy militait depuis 50 ans pour les droits des populations aborigènes du Jharkhand dans le nord-est de l'Inde afin qu'elles gardent leurs terres et bénéficient d'un développement approprié. En octobre dernier, il est arrêté, accusé de sédition et de terrorisme, puis incarcéré. Dans une vidéo tournée en octobre 2020, avant son incarcération, il apparaît en chemisette, la voix calme.
Right now, NIA is interrogating me.
Il raconte qu'il a déjà subi 15 heures d'interrogatoire de l'Agence nationale d'investigation, principale agence gouvernementale indienne antiterroriste. Il refuse, dit-il, de se rendre à 1700 km de chez lui pour un nouvel interrogatoire. Non, je n'irai pas à Bombay, affirme-t-il. Il explique également qu'il souffre de plusieurs maladies, que la pandémie ravage le pays. Et comme il est déconseillé aux personnes âgées de se déplacer, il veut bien être interrogé, oui, mais en vidéoconférence. Deux jours plus tard, il est tout de même arrêté, envoyé en prison. Et il vient de mourir donc en détention des suites du Covid. L'ONU a réagi et se dit perturbée, attristée. Et des ONG indiennes dénoncent un meurtre institutionnel.
Allez, le Sénégal maintenant. Partons à la rencontre d'un auto-entrepreneur plein d'imagination, plein de talent aussi.
Oui, il s'appelle Babacar Thiam, il vit à Dakar. Il a eu une idée de génie qui concilie l'utile, le beau et l'anti-gaspillage. Il crée des meubles à partir de barils usagés. Oui, de vieux barils de pétrole bleu abandonnés et entassés dans la rue. Eh bien, le menuisier métallique leur donne une nouvelle vie. Il conçoit des canapés, des chaises, des tables de toutes les formes, de toutes les couleurs. Babacar Thiam explique sa démarche devant les caméras de la BBC Afrique. Quand je transportais des barils dans les rues, les gens me prenaient pour un fou. Ils s'étonnaient de me voir collecter les barils. Quand je vois un baril en passant, je m'arrête, je l'admire, surtout quand il s'agit d'un baril en bon état. J'ai déjà un modèle en tête parce que tout ce que j'ai pu avoir, c'est grâce au baril. Alors, tout ne s'est pas fait en un clin d'œil. Hein. Il a fallu de l'entraînement, quelques échecs pour arriver au résultat qui lui convient bien. Mais c'est très réussi et c'est sa participation, dit-il modestement, à la protection de l'environnement.
Eh bien, bravo à lui, super.
Oui, c'est très joli d'ailleurs.
Eh bien écoutez, formidable. Merci à vous, Mariam El-Kurdi. On ira voir sur internet à quoi ressemble le travail de ce jeune homme avec ses barils de pétrole.
Thiam.
Exactement. Tiens, comment ça s'écrit, Thiam?
T-H-I-A-M.
Voilà, allez voir, vous verrez, c'est assez marrant. Vous partez avec Diana Krall, Mariam, et sa version de Temptation.
glass of brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. 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 I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Temptation, I can't resist.
Diana Krall et Temptation sur France Inter. Allez, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique d'après Trump, celle de Joe Biden, où la fracture vaccinale est en train de s'élargir. Tiens, tiens, est-ce que ça ne nous rappellerait pas quelque chose ? Loïc, une partie des Américains ne veut pas se faire vacciner contre la Covid-19 et tiens, tiens encore.
Et non, effectivement, jour après jour, depuis un pic en avril, eh bien, la campagne vaccinale marque clairement le pas. La semaine dernière, par exemple, le nombre de doses injectées par jour en moyenne s'est effondré de 43% par rapport à la semaine précédente. Un peu moins de 68% des adultes ont reçu une première injection, loin de toute immunité collective et loin aussi des objectifs qui avaient été fixés par Joe Biden. Cet échec du président américain, les républicains l'ont copieusement applaudi ce week-end lors de la CPAC, la grande conférence des conservateurs, on y reviendra. Réaction dépitée du docteur Fauci, l'épidémiologiste de la Maison-Blanche.
C'est terrifiant. Je veux dire, ils applaudissent quelqu'un qui affirme que c'est une bonne chose pour les gens de ne pas essayer de sauver leur propre vie. Je ne peux pas le comprendre. Et je ne crois pas que qui que ce soit, avec un minimum de réflexion, puisse le comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Voilà, c'est que tout cela est devenu, Loïc, très, très politique.
Et oui, et d'ailleurs, la carte électorale de la dernière présidentielle correspond plutôt bien à celle de la vaccination. On se fait plus volontiers vacciner dans les États qui ont voté pour Joe Biden que dans ceux qui se sont prononcés pour Donald Trump. C'est le cas du Montana, un État très conservateur et peu vacciné, mais où les autorités n'y voient pas d'inconvénient. Elles viennent même de rendre illégale toute discrimination à l'égard d'un non-vacciné, un peu comme s'il s'agissait d'une minorité religieuse. Le problème, c'est qu'à l'inverse, l'idée d'une vaccination obligatoire commence à faire son chemin dans certaines entreprises ou dans certaines universités qui préparent la rentrée, et ces deux Amériques risquent d'entrer en collision. Charlie Kirk, activiste conservateur, s'oppose ainsi à la vaccination obligatoire dans les facs. Il vient de lancer une campagne baptisée No Forced Vax, pas de vaccination forcée.
Nous ne tolérerons pas que des étudiants soient vaccinés contre leur volonté. C'est un problème très simple. Il en va de notre liberté, de notre vie privée. Si vous êtes inquiet à propos du vaccin, c'est le cas de beaucoup de gens, vous devriez pouvoir dire non, surtout si vous avez 18, 19 ou 20 ans. Les étudiants ne devraient pas avoir à vivre dans un apartheid médical s'ils ne veulent pas se faire vacciner.
Voilà, un apartheid médical, dit-il, des mots qui font écho à ceux d'une habituée de ce type de sortie, l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene. Elle vient de comparer les pro-vaccins à des chemises brunes, une section paramilitaire nazie. Il y a quelques semaines déjà, elle avait multiplié les comparaisons entre l'obligation de port du masque et le régime d'Adolf Hitler, forcé de s'excuser, y compris Fabienne, par son propre parti.
Eh bien, dites-moi, on a les mêmes problèmes, heureusement pas les mêmes comparaisons. Les conservateurs, Loïc, qui s'étaient réunis ce week-end à Dallas pour leur grande conférence annuelle.
Voilà, CPAC, réunion lors de laquelle Donald Trump a encore fait la pluie et le beau temps. L'ex-président a même remporté facilement un sondage informel qui le donne favori des conservateurs pour une candidature en 2024. Le milliardaire, on l'a déjà dit ici, pèse énormément sur le parti républicain. Il fait et défait les carrières en choisissant ses propres candidats pour les mid-termes, les élections de mi-mandat l'an prochain. Il vient de le faire d'ailleurs avec une élue de l'Alaska, Kelly Chibaka. Voilà le spot publicitaire qui a été diffusé à la télévision.
She's conservative. C'est une conservatrice pro-armes, pro-Alaska, pro-énergie, America first. L'Amérique d'abord. Kelly Chewbacca se battra pour nous.
I'm Kelly Chewbacca and I approve this message.
Je suis Kelly Chewbacca et j'approuve ce message, dit-elle. Donald Trump la soutient donc, et le parti en Alaska du coup a suivi en la soutenant également, face pourtant à leur propre sénatrice depuis 2002, presque 20 ans, Lisa Murkowski, une élue qui est un peu trop modérée au goût de Donald Trump.
Merci beaucoup Loïc Lurie avec nous depuis New York. À la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron va donc s'exprimer dans un peu plus d'une heure. Il pourrait annoncer de nouvelles restrictions et contraintes face à la propagation rapide du variant Delta. Et ce qui vous frappe, c'est une nouvelle fois le déficit de concertation entre pays européens sur le sujet. C'est votre monde d'après.
Mais vous savez, on a la sensation d'avoir déjà vu ce film et même de l'avoir vu plusieurs fois depuis un an et demi et le début de la pandémie. Cacophonie européenne, nouvelle saison. Quand les indicateurs épidémiologiques passent au vert, la concertation sereine s'installe entre voisins. Et dès que l'orange clignote, ne parlons même pas du rouge, les vieux réflexes nationaux reprennent le dessus. C'est flagrant d'abord sur la gestion par chaque gouvernement des mesures internes à chaque pays. Chacun fait dans son coin. Sur la vaccination obligatoire des soignants, l'Italie le fait déjà depuis un mois, un peu plus d'un mois même. La Grèce et la France l'envisagent désormais. Les autres sont pour la plupart réticents sur les mesures de restriction, jauge, confinement, couvre-feu. Personne ne fait la même chose alors que le variant Delta se développe partout. Les Pays-Bas durcissent et referment les discothèques et bars de nuit. Plusieurs régions espagnoles imposent des jauges. Même chose au Portugal ou en Belgique. À l'inverse, l'Irlande hésite. La Suisse la joue open bar. Vous me direz, elle n'est pas dans l'Union. Je vous épargne le Royaume-Uni, pourtant le plus touché par le variant Delta. Après son opération portes ouvertes au virus avec l'Euro de football, il maintient la levée générale des restrictions au 19 juillet dans une semaine. Il a beau être sorti de l'Union, ça n'en est pas moins inquiétant. Bref, chaque pays fait ce qui lui plaît chez lui. Mais bon, ça, à la limite, ça peut se concevoir, vu que la santé publique reste la prérogative de chacun sur son sol. Il y a plus embêtant, c'est la circulation entre pays.
Vous voulez dire le passage des frontières, c'est ça? Y compris entre pays européens.
Ouais, je vous dis, là vraiment, c'est le même film. Hein. Souvenez-vous, lors de la première vague, puis de la deuxième. Déjà, la cacophonie aux frontières, aussi bien aux frontières entre pays européens qu'aux frontières externes. Eh bien, c'est reparti pour un tour. L'exemple révélateur, c'est Malte. La petite île méditerranéenne a beau être membre de l'Union, elle a décidé de son propre chef d'interdire l'entrée sur son sol aux non-vaccinés. Rideau, sans concertation avec Bruxelles. Dans une moindre mesure, l'Allemagne, la France aussi ont envisagé de durcir les règles de circulation avec l'Espagne ou le Portugal, deux pays particulièrement touchés par le variant Delta. Puis Berlin et Paris ont un peu rétro-pédalé, toujours pas de concertation avec Bruxelles. Il y a encore plus troublant, la Grèce accepte des touristes non européens vaccinés avec les sérums russes, Sputnik ou chinois Sinopharm, alors que leur efficacité face aux variants n'est pas démontrée. Là encore, pas davantage de concertation avec Bruxelles. En fait, les pays du sud de l'Europe sont guidés évidemment par une priorité, sauver leur saison touristique estivale. Le tourisme, c'est 20% du produit intérieur brut en Grèce, 13% en Espagne ou en Italie. Donc c'est une logique compréhensible économiquement. Mais le résultat, c'est une situation sanitaire qui est illisible à l'échelle du continent.
Et ça peut encore s'arranger ou pas?
En fait, ça s'arrange, mais c'est très lent. Il y a un mois, on y a cru. Les pays européens ont annoncé vouloir appliquer désormais des règles communes, se concerter systématiquement sur les questions de libre circulation. Et puis il y a 12 jours, le 1er juillet, on a vu apparaître ceci, je vous montre le mien, là, ici en studio, le passe vaccinal européen, vous savez, le code QR qui permet de circuler librement au sein de l'Union. C'est quand même un résultat significatif, tant sur le plan sanitaire que technologique. Désormais aussi, la Commission européenne s'autorise à rappeler à l'ordre les pays de l'Union qui tentent de faire bande à part. Mais bon, impossible d'aller plus loin, la coordination reste un objectif, pas vraiment une contrainte. Bruxelles, par exemple, ne peut toujours rien imposer aux États membres sur les politiques vaccinales, alors même que l'expérience de ces 18 derniers mois le démontre, un variant qui s'installe dans un pays européen finit toujours par débarquer chez ses voisins. Et ça sera le cas tant que la vaccination ne sera pas suffisamment généralisée. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière par peur du douanier. Donc s'il n'y a pas de coordination entre voisins européens, c'est non seulement incohérent, mais en plus inefficace. À force, on aurait dû le comprendre. Mais les vieux réflexes ont la vie dure et c'est comme ça qu'on tourne un nouveau remake du même film cacophonique.
Jean-Marc Four, merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de 19h et puis le téléphone sonne à tout de suite.